Alors, deuxième point, finance, qui est un point technique sur l'indemnité de conseil versée au comptable public. Je vous dis, pour finir. Bien, c'est l'indemnité annuelle que nous versons au comptable public pour son travail effectué pour la ville. Donc, l'indemnité sera acquise à Madame Françoise Verdier durant toute la durée de son mandat, sauf délibération contraire. Et donc, le receveur de la commune, l'indemnité de conseil au taux de 100% pour la prestation d'assistance de conseil des services de la ville de Bussy-Saint-Georges.
Alors, vous savez que cette indemnité est très normée. Donc, vous avez le tableau qui représente effectivement le calcul de cette indemnité. Y a-t-il des questions ? Contre, abstention, merci beaucoup. Alors,
je vais devoir vous laisser. Ok. Excusez-moi, j'ai un impératif, donc je vais devoir vous laisser. Je donne pouvoir à Mme Rouge.
Absolument. Alors, le protocole d'accord transactionnel Téligo. Alors, je reprends un petit peu le sens historique de cette affaire, puisque nous étions donc après la liquidation de la Faucelle, donc un marché public, hein, j'entends bien un marché public et non pas une DSP, a été notifié à Téligo le 27 juin 2016, reprenant l'ensemble des activités qui étaient issues de l'ancien prestataire, donc grosso modo accueil périscolaire matin et midi. Ce marché était conclu pour 3 ans ferme, à compter du 6 juillet 2016, avec une fin prévisionnelle, donc en 2019. Un avenant numéro 1 a été négocié avec Téligo, permettant d'ajuster un certain nombre de points techniques. Et puis, Téligo a commencé à discuter avec la collectivité, donc bien avant 2017, de la problématique de la subvention CAF. La subvention CAF étant versée à la ville, subitement, Téligo a demandé à avoir l'attribution de ces montants, donc 350 000 euros sur l'activité périscolaire et la même chose sur la pause méridienne. À plusieurs reprises, nous avons commencé à discuter avec Téligo qui, pour faire un peu de pression, a estimé aussi devoir invoquer, en plus de la convention sur la CAF, un certain nombre de difficultés financières. Quand j'ai reçu le président de Téligo, je lui ai demandé effectivement que c'est pas tout d'évoquer des difficultés financières. Démontrez-moi ces difficultés financières, ce qu'il a toujours refusé de faire. Donc, un, il évoque une situation critique, qu'on peut comprendre, mais il ne la démontre pas et ne veut surtout pas la démontrer. Il évoque des retards de facture, et nous avions refait le point avec lui et les services scolaires de la ville. À chaque facture, nous faisons un décompte et ce décompte était faux. Donc nous renvoyons les éléments effectivement à Téligo pour qu'ils puissent être payés par tranche de 3 mois. C'est une avance trimestrielle qui lui permet de verser notamment les salaires à l'ensemble des agents. Fort de cela, Téligo choisit le bras de fer en communiquant à la presse ses difficultés en disant « je vais évoquer la force majeure pour sortir du contrat ». À partir de cela, donc on était à peu près sur la mi-février, et il annonce son départ officiel à sa demande au 28 février. 2 réactions de la part de la ville. 1, nous n'acceptons pas la force majeure, c'est-à-dire de retirer, parce qu'il y a des conditions juridiques pour évoquer la force majeure. Et 2, comme il évoque la possibilité, l'impossibilité pour lui de verser le salaire du mois de mars, comme je vous le disais tout à l'heure, les avances sont trimestrielles, donc il avait déjà touché l'argent pour pouvoir payer les salaires du mois de mars. Il s'avère que, lors de plusieurs rencontres, nous n'aboutissons pas sur la problématique de la CAF. Je rappelle qu'il a candidaté sur un marché public dans lequel la CAF n'était pas versée à Téligo et c'était inscrit dans le cahier des charges. Et la réponse de Téligo était en fonction, effectivement, de ces paramètres-là. Il a répondu en fait au marché, selon moi, comme une délégation de service public et non pas comme un marché public renouvelable. Fort de cela, constatant que nous ne pouvions pas aboutir à un changement de comportement de Téligo. Nous avons accepté sa demande de sortie au 28 février. Quand on dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Vu les conditions de fonctionnement de Téligo, pour éviter que les parents, les enfants et la commune soient pris en otage, nous étions prêts à municipaliser l'action le temps de relancer un marché. Ce qui n'a pas été nécessaire, puisqu'effectivement, nous avons contacté immédiatement le deuxième candidat au marché de 2016, qui s'appelle l'IFAC, et donc qui nous a dit, en l'espace de 15 jours, pouvoir répondre à notre demande au coût du marché signé avec Téligo. Donc, il va prendre la dernière année, enfin les 18 mois qui restent effectivement à courir au marché, au même coût, et la compréhension, je dirais, de l'IFAC par rapport à la CAF est totale, puisqu'il répond effectivement sur la même démarche. Donc, en l'espace de 15 jours, entre l'annonce du départ de Téligo et l'arrivée de l'IFAC, les parents n'ont subi, et les enfants bien évidemment, subi aucune journée de décalage. Le 1er mars 2018, l'IFAC est entré dans les lieux avec une session de marché dans les mêmes conditions, et subitement, Téligo, dans le protocole d'accord transactionnel, estime renoncer à la demande de la CAF. Donc vous voyez bien effectivement que derrière, nous avons tourné en rond pendant un certain nombre de temps. Je pense que ça a été effectivement un essai de sa part sur ce dispositif-là. Le protocole que nous avons signé se fait avec des engagements qui ont été produits, notamment sur l'indexation d'un certain nombre de paramètres, et notamment la vérification des factures et de la fréquentation des enfants sur les activités périscolaires. Donc voilà, donc nous en sommes là aujourd'hui. Depuis le 1er mars, l'IFAC est entré dans les lieux. Téligo a accompagné l'IFAC, notamment sur la transmission des données personnelles de chacun des agents. Donc chaque salarié de Téligo a été repris par l'IFAC. Et l'IFAC étant adhérent à la convention collective, eh bien, les salariés aujourd'hui de l'IFAC vont pouvoir bénéficier de ce qu'ils n'avaient pas avec l'association Téligo, de la convention collective, donc avec un petit rattrapage de salaire à la clé. Donc, aujourd'hui, nous négocions avec l'IFAC qui avait déjà présenté un projet pédagogique, la mise en place de ce projet pédagogique. Nous négocions avec l'IFAC le passage à la semaine des 4 jours, puisqu'effectivement, ce sera effectif à partir de la rentrée de septembre. Et je ne peux donc, moi, que me féliciter d'avoir trouvé cette solution, je dirais, dans une urgence absolue, et surtout, d'avoir permis au service aussi de travailler sur une option qui n'était pas forcément ouverte à l'époque, c'est que, quoi qu'il arrivait, on aurait pris notre responsabilité et nous aurions pris en charge les salariés de Téligo le temps de la transaction et le temps de relancer un marché, ce qui n'a pas été nécessaire. Donc voilà l'origine de la problématique, les conséquences qui en ont été tirées, surtout la conclusion qui a été, bénéfique pour tout le monde, puisqu'effectivement, Téligo, qui ne souhaitait pas rester, est parti, et l'IFAC a repris l'activité. Donc voilà, donc je me félicite à la fois du travail de mes collaborateurs sur ce dossier-là, et surtout de Brigitte Géraud-Tirode, qui a été, avec l'ensemble de ses services, qui a été vraiment, à mes côtés dans toute la négociation, et croyez-moi, c'est pas une négociation qui a été simple, mais c'est pour moi le résultat qui compte. Nous avons joué la transparence avec la totalité des parents, puisque à chaque élément évoqué dans la presse, nous y avons apporté une réponse. Nous avons été en discussion constante avec les personnels de Téligo et avec les représentations de parents d'élèves. Donc voilà, en toute transparence, et c'est pas un vain mot. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'aboutissement de ce dossier complexe. Y a-t-il des questions ? Madame Brunel.
Oui, est-ce qu'il y a un accord, je suppose que vous avez un protocole d'accord avec l'IFAC.
Ben oui, vous l'avez,
on l'a pas.
Ah non, avec l'IFAC, vous avez...
Non, je parlais de l'IFAC, juste, est-ce que vous avez un protocole d'accord, est-ce qu'un jour on l'aura, c'est tout,
alors, il n'y a pas besoin d'avoir un protocole d'accord, puisque la session a été faite par deux actes que le maire signe, une décision de cession de marché, avec l'accord de Téligo, et un avenant, nous avons, doublé d'un avenant, effectivement, reprenant le terme, le début et le terme du contrat, puisqu'il reprend le marché en l'état pour la fin du contrat. Donc, décision du maire de cession et avenant. Il n'y a pas de protocole d'accord, nous ne sommes pas en...
on peut céder un marché
oui. Ce que vous avez effectivement dans la note, et notamment quand il y a un défaillant sur un marché, le deuxième est habilité si le premier donne son accord, ce qui était le cas pour Téligo. Madame Condotil.
Oui, et pour la rentrée, avec la semaine de 4 jours, il va y avoir un avenant.
Absolument, absolument. Donc nous sommes en train de négocier l'avenant pour passer aux semaines de 4 jours. Y a-t-il d'autres questions, Madame Travers?
Donc, nous apprécions que pour les familles, effectivement, il n'y ait pas eu de rupture de service. Ça, c'est très, très positif. Pour autant, nous nous abstiendrons parce qu'il y a eu quand même des communications croisées. Il y a un litige qui a aussi donné lieu à articles dans le Parisien avec des sous-entendus. Donc, nous essayons de ne pas avoir toutes les pièces du dossier pour pouvoir voter.
Je dirais ce qui a été évoqué par Téligo et les réponses que nous avons apportées systématiquement. D'ailleurs, vous avez les réponses dans la presse, parce que c'est quand même dommage de parler par voie de presse, mais c'était le cas pendant un moment. Les réponses apportées par les fédérations de parents d'élèves étaient conformes aux nôtres. Donc voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, ça a été une période intense de discussion avec un opérateur qui se retrouvait en difficulté financière, mais je le dis et je l'avoue, n'a jamais démontré les difficultés financières qui étaient les siennes. Ce qui est quand même assez incroyable, parce que quand vous avez un prestataire dont le principal client est une ville, s'il a des difficultés financières, la première chose qu'il soumet, je dirais, à notre appréciation, c'est bien effectivement les difficultés financières qu'il subit. Ce qui n'a jamais été le cas. Je n'ai jamais vu aucun document comptable. D'autres questions? On peut passer au vote? Contre? Abstention? Merci beaucoup. Alors, point numéro 4, recours au service civique par l'intermédiation de la mission locale du bassin chélois et la création de postes. Alors, comme vous le savez, dans le cadre de la politique de jeunesse, tu veux en parler, Baptiste, vas-y.
Bonjour à tous. Alors, depuis que nous avons été élus, Bussy s'emploie à reconnaître notre jeunesse, qui est à la fois nombreuse et dynamique, à travers un projet jeunesse établi sur plusieurs années. Donc 2018 sera la première année de la jeunesse à Bussy, et dans cette organisation de la politique jeunesse, nous allons avoir recours au service civique qui va nous permettre de recruter 2 jeunes pendant cette année 2018. Alors, avec le service civique, le grand avantage, c'est que c'est un stage de 6 mois qui sera rémunéré à environ 600 euros et qui ne coûtera à la commune que 100 euros. Tout le reste sera payé par l'État. Donc ça permettra donc à des jeunes de pouvoir se réintégrer dans l'hypothèse où ils auraient des problèmes, car ils peuvent être donc recrutés de 16 à 25 ans. Et ils pourront travailler donc au bien commun de la ville et des jeunes de Bussy-Saint-Georges.
Donc la convention que nous passons avec la maison de l'emploi de Chelles nous permet justement, la mission locale, pardon, nous permet de bénéficier de l'agrément et donc de ne pas avoir toute la partie administrative de ce type de poste. Nous avons aujourd'hui, entre guillemets, nous, en formalité administrative, à créer le poste, donc il sera divisé en 2 fois 6 mois. Pour le même poste, les mêmes missions affectées au service jeunesse. Madame Travers.
Dans le document, vous évoquez une notion de territoire. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par territoire?
Il s'agit de... excusez-moi, où ça, dans le territoire?
Alors, je ne sais plus où exactement, mais en fait, la question est derrière, subsidiaire, et de dire que ce serait intéressant de pouvoir prioriser les jeunes du Buisson-Georgien dans ce cadre.
Bien sûr. Alors, nous passons par le bassin chélois qui s'occupe donc de tout ce qui est administratif, ce qui permet donc à notre coordinatrice jeunesse de gagner du temps. Mais le choix nous appartient totalement, donc ce sera à nous de choisir. Et évidemment, on va prioriser sur les jeunes de Bussy.
Madame Candotil.
Oui, j'ai une question. Ce sont des jeunes volontaires qui n'ont pas de profil particulier, normaux, entre guillemets.
Non, aucun profil particulier. Il y a juste un impératif d'âge de 16 à 25 ans.
De jeunes délinquants, motivés,
surmotivés.
Non, ce seront des jeunes effectivement en réinsertion qui seront présenté à la ville de Bussy-Saint-Georges, effectivement, et nous avons dans ce bassin de vie, justement, à Bussy, de quoi pourvoir ce poste-là. Donc, il sera, je le répète, effectivement, divisé en deux. Y a-t-il d'autres questions sur ce poste, cette création de poste? Alors, je reprends la délibération. Donc, je vous propose d'approuver le principe de l'accueil des jeunes en service civique volontaire et d'approuver la création d'un poste de service civique et l'intermédiation de la mission locale. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci beaucoup. Tu vois, tu fais l'unanimité sur ton premier dossier. Donc, félicitations à Baptiste. Pour le Benjamin de notre conseil municipal, donc félicitations. Alors, rétrocession et classement dans le domaine public communal des parties communes de l'ensemble d'habitation Villa Saint-Germain, Monsieur Citizac.
Bah écoutez, c'est une rétrocession tout à fait banale, hein. Donc je rappelle l'historique si vous voulez, hein. Donc la rétrocession a commencé en 2007, il y a eu entre temps des problèmes d'assainissement, donc ça a duré pas mal de temps et voilà, donc ça a duré 10 ans et on en est à la fin et donc voilà, quoi dire de plus.
De toute manière, dans la rétrocession d'ASL, on a toujours deux problèmes, éclairage public et assainissement. Une fois que ces problématiques sont réglées, on peut engager le processus devant le notaire, ce qui a été le cas. Et donc, on vous propose aujourd'hui effectivement, hop, de pouvoir approuver la rétrocession à titre gratuit des emprises et des équipements communs et de les classer dans le domaine public communal. Donc à partir de ce jour, les prises en charge se feront par la ville. Madame Brunel. Donc, contre... Ah, c'était pour vous dire que nous allons passer au vote, hein, que vous puissiez vous préparer.
Donc, une question à la Brunel peut-être.
Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Merci beaucoup. Alors, un sujet qui est tout à fait fascinant, mais qui permet effectivement de respecter l'orthographe, et nous avions une réflexion de la part de la Bourse Saint-Georgien, et nous avons vérifié effectivement l'écriture et l'orthographe de Iliade, et donc qui doit contenir un seul L et non deux, donc nous allons procéder à la rectification de la nomination de cette rue avec Iliade avec un seul L. Y a-t-il des questions sur ce sujet fondamental? Non? On peut passer au vote? Contre? Abstention? Merci beaucoup. Alors, comité de quartier, je laisse la parole à Monsieur Nouguerol.
Merci, Monsieur le maire.
Chut, s'il vous plaît.
Comme d'habitude, la note établie par les services est très claire. Vous savez qu'il y a à peu près un an de cela, un petit peu plus, nous avons eu, conformément à nos engagements de campagne, créé 5 comités de quartier, qui sont des instances donc, de participation citoyenne au service de bien vivre ensemble. Et donc, vous avez ici le numéro de la... Merci. Nous avons le numéro de la délibération qui est en face de vous. Donc ces comités de quartier s'appuient...
On n'est pas obligé d'écouter.
Ah oui d'accord, mais vous n'êtes pas obligé de faire du bruit non plus.
Mais par contre vous n'êtes pas obligé de parler non plus quoi.
Donc les comités sont appuyés et régis par une charte donc, qui a été adoptée par la même... Merci. Par la même délibération. Et au terme de la dite charte, chaque comité de quartier est présidé par un élu municipal désigné par arrêté du maire. Il se trouve que pour ce qui concerne le comité de quartier du centre-ville, nous avons eu une démission de la part de la maire adjointe à la culture ici présente pour des raisons personnelles. Et je voudrais d'abord la remercier d'avoir animé ce comité de quartier pendant un peu plus d'un an. Et nous avons pris la décision avec monsieur le maire de faire évoluer le mode de fonctionnement du comité de quartier de façon à ce que ce ne soit plus un élu qui préside ce comité de quartier. Pardon ? Plus automatiquement, en tout cas. Donc, afin de favoriser le renouvellement des instances de ces comités de quartier, il est proposé d'ouvrir la présidence des comités de quartier à des habitants du quartier non élus au conseil municipal. C'est donc ce sur quoi on vous demande de votre accord pour procéder à cette modification.
Merci. Merci. Marc, Claire Travers.
Merci beaucoup. Donc, nous avons plusieurs questions sur cette charte. La première question, c'est qu'il avait été évoqué le fait de faire un bilan du fonctionnement des comités de quartier, et il nous semblerait bon de commencer par faire un vrai bilan avant d'élaborer une charte. Car il y a des disparités, on va dire, dans le fonctionnement et l'animation et la tenue de ces comités de quartier. Voilà. Le deuxième point, c'est que on parle de démocratie participative, et le fait que les présidents de ce comité soient désignés par le maire nous semble ne pas aller loin par rapport à ce qu'est une démocratie participative, dans laquelle c'est les membres du comité qui élisent leur président. Et le troisième point, c'est que la charte, excusez-moi, nous avons besoin de la clarifier avec vous. Car quand on prend les termes de la charte, il y a des points qui nous semblent un peu obscurs. Il est dit, page 3, le comité de quartier est placé sous la responsabilité. D'abord, le comité est composé d'un comité de quartier. Le quartier est composé d'un comité de quartier animé par un président désigné par le maire parmi les habitants du quartier. Ensuite, il est dit que ce comité est placé sous la responsabilité du président. Puis on parle de l'élu représentant le conseil municipal. Je suppose que c'est le référent du quartier qui est évoqué juste avant, mais bon, ça n'est pas dit. Qui coordonne les réunions du comité de quartier. Et ensuite, il est dit que le référent désigné par le maire est animé par le comité de quartier. Donc, il y a deux personnes qui animent le comité de quartier, c'est le président et le référent qui, j'imagine, doit être l'élu représentant le conseil municipal. Excusez-nous, ça n'est pas très clair, c'est un peu incompréhensible. Et du coup, notre recommandation aujourd'hui, ça serait de mettre de côté pour l'instant cette charte, de reporter cela, de faire un vrai bilan et de créer un groupe de travail. Puisqu'on est dans une logique de démocratie participative, intégrant des élus qui ont participé à cette démarche louable, intégrant aussi des habitants membres de ces comités de quartier, pour, suite au bilan et après avoir fait le bilan, élaborer la charte de façon un peu plus construite, de façon peut-être plus claire. Et notre recommandation vive, c'est, mais n'ayez pas peur, allez-y, n'ayez pas peur de donner vraiment la démocratie, enfin de donner un peu le pouvoir aux gens au sein du comité, et de faire en sorte que le président soit élu par les membres de ce comité. N'ayez pas peur, monsieur le maire.
Nous n'avons peur de rien, je vous rassure là-dessus. Donc nous avons élaboré un projet nouveau sur Bussy-Saint-Georges. Ce projet a maturé pendant un an, donc le bilan va arriver au mois de mai. Il sera présenté effectivement au conseil municipal selon, je dirais, les engagements. Nous avions déjà discuté au moment de la mise en place, effectivement, donc d'un président et d'un référent. C'est un binôme qui permet effectivement aussi de se partager le travail, de permettre une animation différente et d'avoir aujourd'hui dans ces 5 comités de quartier un dynamisme absolument incroyable, puisqu'effectivement entre les réunions, qu'elles soient générales, et les réunions thématiques, ça a été le cas pour les voisins vigilants, ça a été le cas pour les problématiques de sécurité, ça a été le cas sur les pompiers, le lancement du sycomore. Donc jamais à ce niveau-là la concertation ne s'est produite sur Bussy-Saint-Georges. Il y a toujours des ajustements à faire, et c'est ce qu'on est en train de faire justement là aujourd'hui, et il y a pour nous une nécessité de le faire, puisqu'on a la démission d'une des présidentes effectivement des comités de quartier, donc il y a nécessité effectivement pour nous de remettre ce projet sur la table, en l'ouvrant effectivement à des personnes non élues au conseil municipal. Je trouve que ça c'est déjà faire preuve de démocratie participative. Une fois qu'on aura fait le bilan, donc à partir du mois de mai, laissant le temps au comité de quartier d'agir et de réagir effectivement sur un certain nombre de thématiques, à ce moment-là on verra effectivement quelles sont les conditions d'amélioration. Mais créer une commission pour les comités de quartier, alors que l'objectif des comités de quartier c'est de se réunir justement pour pouvoir discuter d'un certain nombre de sujets, me paraît aujourd'hui rajouter une strate compliquée, en sachant qu'on en demande beaucoup aux membres des comités de quartier en termes de réunion, en termes de travail, en termes d'identification dans le quartier. Donc, on va attendre ce bilan à la fois quantitatif et qualitatif sur une action d'un peu plus d'un an, hein, sur depuis sa création, et on reviendra effectivement sur le dispositif. Là, aujourd'hui, je maintiens cette modification de la charte nous permettant de pouvoir pourvoir en ouverture sur la présidence effectivement actuelle du comité de quartier du centre-ville et de soumettre à votre vote effectivement les conditions de cette nomination. La décision du maire sur la nomination du président et du référent aujourd'hui est la garantie du fonctionnement éclairé pour l'instant effectivement de ces comités de quartier. C'est comme ça que nous l'avons construit, c'est comme ça que nous le ressentons et c'est comme ça que ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, donc on en tirera les conséquences le moment venu, mais ces conséquences, effectivement, et notamment les statistiques que l'on peut avoir aujourd'hui sur la qualité des réunions, me semblent tout à fait importantes. On a encore des ajustements à faire sur le comité de quartier du Sycomore, dans lequel une des idées, effectivement, serait d'incorporer des nouveaux acquéreurs dans le comité de quartier, effectivement, pour pouvoir anticiper leur arrivée sur Bussy. On l'a vu notamment dans les réunions de concertation du Sycomore, de très nombreux nouveaux acquéreurs sont venus assister aux réunions pour pouvoir parler de leur futur quartier, en tout cas prendre des informations. Madame Travers.
Donc, effectivement, nous notons le bilan en mai, nous serons très attentifs à ce bilan. Encore une fois, la démarche est louable. Je pense que vous êtes timide. Il y a des villes, pas très loin de chez nous, qui font ça, de notre taille, qui font ça très bien, qui vont plus loin, et ça se passe très bien. Encore une fois, je pense que, et c'est valable dans tout social, avoir une coanimation pas très claire dans le cadre d'un comité, ça ne va pas fonctionner. Donc nous allons voter. Non, ça n'est pas clair, parce que vous avez deux personnes qui animent, c'est pas à faire. Donc nous allons voter contre, je me permets de finir, nous allons voter contre cette délibération, non pas pour le principe, mais pour la forme, la façon dont est écrite la charte.
Et je dirais que ce mode de fonctionnement est très clair, il fonctionne plutôt bien, donc c'est la raison pour laquelle nous le maintenons maintenant. Alors, y a-t-il...
Je veux juste rajouter quelque chose. Vous savez, Madame Travers, c'est pas parce qu'on dit systématiquement et qu'on répète quelque chose que ça devient une vérité. Sur le mode de fonctionnement des comités de quartier, on a mis en place ce type de fonctionnement. Pour le moment, il nous satisfait. Nous avons
même et les membres également.
Et les membres également. Alors après, pas tous, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité. Et en plus, nous avons eu, je dirais, le choix politique, parce que c'était un choix de politique, d'ouvrir à l'opposition un certain nombre de sièges, qui sont en nombre de 3, en fonction des groupes qu'il y avait à un moment donné. Donc j'estime effectivement qu'en termes d'instance démocratique, on est plutôt bien. On n'est pas parfait, je vous l'accorde. On n'est pas parfait. Nous n'avons pas le même point de vue là-dessus. Voilà, c'est pas très grave. Mais sachez que, un, ces comités de quartier fonctionnent. Deuxièmement, l'ensemble des projets, vous les verrez, qui sont passés par les comités de quartier ont été perçus, un, de façon positive, et deux, ont de temps en temps, pas tout le temps bien sûr, amendé des choses, les ont bonifiées. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, le fonctionnement du comité de quartier est plutôt pas mauvais. On se jette pas des fleurs. Tout est perfectible et on veillera effectivement à faire évoluer les choses en temps voulu.
Très bien. Mes chers collègues, on va passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Donc l'objectif de cette délibération est d'approuver la modification proposée de la charte des comités et de permettre au maire de signer l'ensemble des documents afférents. Y a-t-il des votes contre ? Donc 2. Des abstentions ? Absolument. Très bien. Merci. Adopté. Alors, l'ordre du jour est épuisé. Je vais simplement... Comme je le fais habituellement à chaque conseil municipal, vous lire les décisions du maire en la matière. Alors, concession dans le cimetière, donc 3 terrains, une case de colombarium, le 29 janvier 2018. 29 janvier 2018 également, convention relative à la mise en place et accompagnement d'un agenda pédagogique. 2 février 2018, convention à Carrefour Market. 8 février 2018, désignation du cabinet MPC avocat dans le dossier de Téligo. 12 février 2018, marché d'organisation des séjours extra-scolaires à Thème pour les vacances 2018. 16 février 2018, MAPA, avenant numéro 1, marché de fourniture d'articles d'habillement pour le personnel et la police municipale. Le 16 février 2018, avenant numéro 2 au marché public relatif à la construction d'un groupe scolaire. Donc lot numéro 7, menuiserie intérieure. 26 février 2018, marché portant sur la fourniture de livres, CD, DVD, partitions pour la médiathèque. 27 février 2018, désignation d'un nouveau titulaire marché public de gestion des activités périscolaires et extrascolaires de la commune de Bussy-Saint-Georges, donc l'IFAC. 1er mars 2018, convention avec l'association IFAC de mise à disposition d'un local situé 8 rocades de la Croix-Saint-Georges, précédemment utilisé par Caligo. Et 6 mars 2018, désignation du cabinet Richer et Associés, notamment pour le dossier de la place de la Marne. Madame Travers.
Auriez-vous une idée de la date du conseil municipal de présentation du budget?
C'est le 3 avril, 19h30. Très bien, merci, très bonne soirée.